Bonjour à tous, bienvenue dans les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun et qui partage le témoignage de personnes extraordinaires. Et les premières émissions seront consacrées à un sujet qui touche une énorme partie de la population française. Un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, qui fait aussi partie intégrante de notre patrimoine culturel, j'ai nommé l'alcool. En France, on estime qu'environ 1,5 million de personnes sont alcoolodépendantes et que 2,5 millions de personnes ont une consommation à risque. Selon le Vidal, avec 14% des hommes contre 5% de la population féminine. Sans omettre ce détail, non des moindres, que la consommation excessive d'alcool serait responsable de 33 000 à 49 000 décès par an en France. Mais c'est quoi un alcoolique? Que dit l'OMS par exemple? Tout d'abord, elle préfère nommer l'alcoolisme alcoolodépendance. Selon l'OMS, l'alcoolodépendance est avérée lorsque la consommation de boissons alcoolisées devient prioritaire par rapport aux autres comportements auparavant prédominants chez une personne. Le désir de boire de l'alcool devient impossible à maîtriser et doit être assouvi au détriment de toute autre considération. L'alcool devient une obsession. Sa consommation doit être poursuivie même lorsqu'elle entraîne des conséquences manifestement problématiques. Ça, c'est l'OMS. Mais je voudrais aborder ce sujet car j'ai eu la chance de rencontrer un alcoolique résilient. Et croyez-moi, ça ne court pas les rues. La première personne extraordinaire que vous allez écouter s'appelle Patrick. Il a 47 ans, il est anciennement malade OH, alcoolique ou alcoolodépendant et avant tout abstinent depuis 10 ans. Il va pouvoir partager avec nous son parcours, ses réflexions, ses expériences et peut-être, qui sait, quelques clés pour tous ceux qui sont concernés par cette maladie de près ou de loin. Je suis allée l'interviewer, je vous propose d'écouter.
Bonjour Patrick.
Salut Mel.
Alors, écoute, je suis ravie que tu sois là. Bienvenue sur Radio Escapade.
Bah, merci, moi aussi, je suis bien content d'être là.
Ouais, bienvenue dans l'émission, c'est chouette. Tout d'abord, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux te présenter un peu, présenter ton parcours? Quel est ton parcours?
Merci de m'accueillir. Et effectivement, pour cette première-là, c'est un honneur. Et puis, je crois que tu n'as pas dû faire les choses au hasard. Tu as choisi un sujet qui est extrêmement prépondérant en ce moment dans notre société, ouais. et qui, je pense, touche tout le monde. Mmh. Tu as donné des chiffres, mais on y reviendra. Et je fais partie de ces gens qui ont été victimes de cette pathologie, parce qu'effectivement, on parle de maladie aujourd'hui. Et pour les auditeurs, je vais un petit peu me présenter rapidement, mais en gros, je suis le troisième d'une fratrie. J'ai grandi en banlieue parisienne. Mmh. Et je suis plutôt d'une bonne famille qui a des moyens aisés sans plus, mais qui travaille, qui a de l'argent, qui peut élever ses enfants correctement, a priori. Et j'ai deux grands frères. Et donc, je suis le petit dernier de la famille. Et ça n'a pas été, évidemment, comme dans beaucoup de familles, pas simple d'avoir cette place. Je ne crois pas qu'il y ait de place plus simple, mais juste qu'on était le nombre de trois. Et c'est important de le souligner, parce que le comportement du troisième et des parents est toujours... très, très particulier. Mm-hmm. C'est comme l'aîné, il a un rôle que les autres n'ont pas.
Oui, tout à fait, on y reviendra.
Et voilà, donc je suis le petit dernier, je suis le petit qui tape des pieds pour se faire entendre. Ouais. Et donc j'ai un parcours qui est plutôt atypique et je vais faire 4 collèges en 4 ans. Donc je me fais renvoyer des collèges par lesquels je passe.
D'accord.
Ensuite, je vais au lycée et je vais faire l'école hôtelière. Mmh. Et donc, je fais un CAP BEP cuisine.
D'accord.
Voilà, parce que chez moi, on est élevé à la bonne bouffe avec des bouteilles de vin, des grosses bouteilles de vin de Bourgogne sans étiquette avec des gros bouchons.
Donc, c'est bien culturel chez toi, du coup.
Oui, ça fait partie de la famille intégrante et complètement, et ça fait partie de ma culture personnelle en plus. Et donc, je fais l'école hôtelière, un CAP BEP cuisine, donc passionné de bouffe. L'œnologie vient après, parce que j'attaque un bac technique hôtelier, on appelle ça le BTH. Le BTH, tu commences l'hôtellerie et la sommellerie, tu commences la sommellerie et l'œnologie, pardon, en cours. Et je prolonge en BTS, j'y prends sérieusement goût, donc BTS cuisine, donc option B en plus, c'est art et génie culinaire de la table.
D'accord.
Et j'adore ça, j'adore le pinard et je m'éclate. Voilà, un bon français, un bon franchouillard, quoi. Et je continue dans ma lancée et je fais une licence et une maîtrise chez Paul Bocuse après avoir fait le BTS option art et génie culinaire. Et donc j'ai un parcours aussi intéressant en sommellerie, œnologie. Et voilà, ça c'est pour poser un peu
C'est ça.
le sujet. Voilà, je suis un
Ok.
passionné de bouffe, passionné de vin.
Ouais.
Et quand je quitte l'école de Paul Bocuse à Lyon, Litch, j'ai déjà en tête de faire une cave à vin et monter mon restaurant. Et finalement, donc je suis diplômé de cette école au passage du millénaire, là, 2000-2001. Et je descends m'installer dans le sud en 2005
Ok.
pour monter une cave à vin particulière.
Ok.
Et je vais passer le BPREA, c'est le brevet professionnel à responsabilité d'exploitation agricole. Et je vais essayer de me lancer, j'achète des terres et je vais essayer de me lancer pour monter ma cave et mon restaurant. Voilà.
Donc l'alcool, dans une partie de ta vie, c'est ton gagne-pain, c'est ton projet professionnel,
Bon,
c'est ton
c'est toute
projet
ma
de vie,
vie en
quoi.
fait, oui, parce que l'hôtellerie-restauration sans le vin, bah, c'est aujourd'hui, bon nombre de Français le
C'est
savent,
ça.
aujourd'hui les bons vins, la bonne bouffe, voilà, nos tapes françaises. On a eu cette réputation dans le monde, c'est pas pour rien. Et je fais partie de cela, ouais,
Ouais.
effectivement. Et donc, là où c'est important que tu le soulignes, c'est que bah, quand tu es alcoolo-dépendant et que tu veux travailler dans le vin, bah, en fait, c'est complètement incompatible. Et
C'est
c'est
ça.
intéressant parce qu'on y reviendra après dans mon parcours.
Oui, bien sûr, parce que là, c'est un parcours ordinaire, quelque part, j'ai
Ouais,
envie de dire. Il
c'est
n'y a rien
ça, c'est ça.
d'extraordinaire là-dedans, c'est
Rien
tout à fait ordinaire.
d'extraordinaire, c'est ça.
T'es passionné de cuisine, t'es passionné de bon vin, t'es passionné de bon alcool, t'as un palais, t'as un nez. Donc,
C'est ça,
voilà,
c'est ça.
c'est vraiment là-dessus que tu construis bah, ta vie, ta carrière et tout le reste. Et bah oui, c'est carrément ordinaire, mais ce qui ne l'est pas, c'est que du coup, enfin, ce qui ne l'est pas, c'est. Tu tombes dans l'alcool, mais tu t'en sors.
Ouais, alors je vais mettre de l'eau dans ton moulin. C'est un parcours qui est ordinaire, mais il est déjà extraordinaire parce que je vais du CAP cuisine
Oui.
à la maîtrise chez Paul Bocuse. Avec un parcours complet
Ouais, donc
d'hôtellerie-restauration,
c'est vraiment
de
voilà,
gestion
des montées
hôtelière
hautes.
et de sommellerie. Et voilà, et chez Bocuse, je suis jury au Chardonnay du Monde. Donc il y en a qui connaissent sans doute, mais en gros, c'est le jury qui a été monté par la région de la cuisine française, la région lyonnaise. Et ce jury, en fait, il est composé de personnes. Donc ce jury il est composé de personnes qui sont sélectionnées et évidemment voilà et c'est pour ça que je soulignais ça c'est parce que finalement je commence à avoir un parcours extraordinaire parce que je développe un système olfactif quand même qui est particulièrement bon efficace performant et c'est un gros atout professionnel
Que
que
d'avoir ça.
d'avoir ça dans sa tête
Mais
voilà.
carrément.
Et donc je commence ma vie pro et j'essaye de me lancer dans le sud. Donc on est dans les années 2005-2006. Et voilà, j'ai tout pour faire un truc génial, un truc qui me ressemble, un truc
Un
de
bon
fou, un
vin.
bon vin, une bonne table.
Voilà. Ben écoute, moi je suis allée dans la rue parce que j'aime, enfin,
Voilà.
j'adore aller questionner les gens dans la rue. J'ai fait un micro-trottoir et je leur ai posé deux questions. Voilà. Donc ben, je te propose d'écouter le micro-trottoir avec moi et ben, c'est parti.
La boîte. C'est parti. Je m'appelle Mélanie et je vais animer une émission radio où je laisse la parole à certaines personnes qui ont un parcours extraordinaire, un peu atypique. Et là, mon sujet, c'est l'alcool.
Ok.
Voilà. Et j'ai envie de faire un micro-trottoir pour un peu sonder, parce que c'est quand même très culturel en
Oui.
France, c'est en vente partout, c'est en vente libre. Et je fais mon petit micro-trottoir pour savoir un peu comment les gens voient l'alcool, qu'est-ce que c'est pour vous boire un coup et qu'est-ce que c'est que l'alcoolisme,
Apparemment,
si vous avez une définition à me donner.
Ok.
Alors on va commencer par est-ce que vous buvez vous?
Oui.
Ouais, dans quel
Très souvent.
contexte?
Bah, c'est-à-dire que moi, c'est souvent dégustation de bière. mais il arrive de manière occasionnelle que ce soit sur des alcools plus forts comme du whisky, du bourbon ou du rhum.
C'est synonyme de quoi pour vous?
En général, moi, c'est quand je sors. D'ailleurs, ma règle, c'est de ne jamais boire d'alcool seul, en général.
Okay.
C'est un assez bon indicateur pour pas justement tomber dans des dérives, je trouve.
Ok.
Et en ce qui me concerne, moi, c'est beaucoup soit pour réellement chercher un goût, parce que j'aime bien tout ce qui est très amer, etc. Mais sinon, c'est pour passer du bon temps avec des amis.
D'accord. Et c'est quoi pour vous l'alcoolisme?
Je pense qu'à partir du moment où on est incapable de pouvoir passer un moment sans, quand on est entouré d'alcool, quand on ressent le besoin de boire, pour moi c'est déjà de l'alcoolisme. Et je compte aussi l'alcoolisme mondain.
D'accord.
Le fait que quand on sort, il y ait des gens qui sont en mode « Ah non, faut absolument que je bois » et tout, alors que c'est pas forcément nécessaire.
Ok.
Alors à la fois je suis d'accord, mais j'agrémenterais que pour moi l'alcoolisme, il y a vraiment une notion de régularité, de récurrence. Et c'est aussi ça qui fait, de manière générale, pour moi, c'est ça qui fait une addiction. C'est le fait qu'on va y revenir de manière automatique, systématique, sur un intervalle régulier, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Pas juste parce qu'on en a l'envie, mais parce qu'on en a le besoin de manière mécanique.
Ok, merci beaucoup. Vos prénoms?
Je m'appelle Ness.
Laura.
Mélanie. Eh bien, enchantée, Ness et Laura.
De même.
Et passez une très très bonne soirée.
Merci,
merci d'avoir répondu à mes questions, c'est chouette.
Aucun souci. Au revoir.
Au revoir. C'est quoi pour toi l'alcoolisme? Comment tu le définirais? Comment tu le vois?
Pour moi, c'est une personne qui a les relationships avec l'alcool qui a un impact négatif dans la vie, sur la vie, pardon.
Ok.
Donc peut-être vous ne bois pas chaque jour,
ouais.
Mais quand tu bois, tu ne peux pas arrêter.
Ouais.
Peut-être tu bois chaque jour, tu réveilles avec le tremblement, comme ça.
Avec le tremblement.
Avec le tremblement. Mais pour moi, c'est l'impact sur la vie.
L'impact sur la vie.
Ouais, si ça impacte sur la vie, si ça, c'est de cause le problème relationship avec de partenaires ou avec des amis ou avec des enfants peut-être.
Okay.
Ça c'est quoi l'alcoolisme?
Tu consommes?
Oui.
Ok. Régulièrement?
Oui.
Et c'est synonyme de quoi pour toi?
Pour moi, moi je suis anglais.
Ouais.
Donc pour moi on a grandi dans le pub.
Ouais, oui.
C'est qu'est-ce qu'on fait avec des copains, on regarde
ouais.
le foot, on boit des pintes.
Okay.
Donc pour moi c'est tellement culturel. Bon, moi je suis en route le pub anglais maintenant pour voir des copains. Jouer le fléchette.
Ouais, okay.
Maintenant je suis en route à le pub pour jouer le fléchette avec des okay. copains, prendre un deux pintes, peut-être plus.
Ouais.
Donc pour moi c'est tellement culturel.
C'est très culturel.
Ouais, ouais, le pint, le pub, le fléchette, le billard,
ouais.
Le foot,
ouais.
toutes ces choses.
Okay.
Ok. Bon, ça c'est moi.
Merci okay. beaucoup, ton prénom?
Aiden.
Ok Aiden, merci
Enchanté.
Beaucoup. Parce que mon interview, c'est sur l'alcoolisme.
C'est sur l'alcoolisme, ok.
Ouais.
D'accord.
Voilà.
Donc rien à voir, vraiment rien
Donc,
à voir.
Donc vraiment rien à voir.
Bon, il y a quand même une bouteille de classe Azul, là, si jamais.
Il y a une bouteille de quoi?
De classe Azul.
Ah bah non.
Si jamais, ça peut rentrer dans l'interview.
On est sudiste, hein.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, c'est justement, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi pour vous boire un coup, du coup? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique?
C'est vraiment boire un verre.
Juste un verre pour vous?
On va boire un coup, oui, à la base.
T'es menteur.
À la base, ça part de boire un verre, sauf qu'après, on ne sait pas comment ça finit. Mais généralement, moi étant jeune, j'ai 21 ans, on essaye de se contrôler, on essaye de pas atteindre les limites, toujours avec modération.
Okay.
L'alcool est dangereux pour la santé.
Ouais.
Exactement. Sans forcément rentrer dans le besoin de boisson. Pour avoir le besoin de boire pour vivre.
D'accord.
C'est vraiment. Okay. Surtout l'été, je remarque que avec les amis, on boit beaucoup l'été. Et l'hiver, on est plus. On dort tôt.
Et toi, en tant que femme?
Alors moi, en tant que femme, boire un coup, c'est vraiment boire un ou deux verres, pas plus.
Et on atteint la limite.
Voilà. Alors là, il n'y a pas d'image, mais elle est en train de taper le monsieur qui est à côté d'elle. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire.
Non, à vrai dire, bah, moi, comme je suis une corpulence assez fine, ouais. Boire un verre ou deux, ça monte déjà vite à la tête. Mm-hmm. Mais ça me suffit, moi, je n'ai pas besoin de boire pour m'amuser. Au contraire, je m'amuse plus quand je ne bois pas.
D'accord.
Et pour le coup, je n'ai pas besoin de passer de bonnes soirées avec mes copines en prenant une ou deux bouteilles. Enfin, vraiment, c'est toujours plus sympa quand on va recevoir, on se prend une petite bouteille histoire d'eux, mais sans forcément dépasser les limites.
D'accord.
Et justement, en gardant cet esprit conscient, on rigole un peu plus, on est un peu plus détendu du coup, mais vraiment jamais dépasser les limites, jamais prendre l'alcool, enfin le volant quand on a bu l'alcool, c'est très important et ça on le sait, il y a beaucoup de prévention à ce niveau-là et on y fait très attention.
Super. Et voilà. Du coup, c'est quoi être alcoolique? Avec vos mots à vous, vous diriez?
Pour nous, c'est vraiment avoir besoin de boire pour se sentir bien. Souvent, on devient alcoolique après un épisode émotionnel fort ou après un événement.
D'accord.
Ou souvent, toi, c'est ça. Pour moi, c'est ça.
Ouais.
Et venant d'un pays où on boit beaucoup.
Ouais, parce que c'est culturel hein, chez nous quand même en France. Hein.
Je parle de la Russie.
Ah, toi, tu es russe.
Ouais. Mais. En France,
on a le.
Pas que, mais ça c'est vraiment.
Parce qu'en Russie, ils sont tous bourrés d'ailleurs.
C'est vraiment cliché.
Ouais.
Mais sauf que chez nous, on a la chance de pouvoir. Souvent, l'alcool rime avec les problèmes personnels.
D'accord.
Ce qu'on remarque, moi, quand j'ai des collègues, ils me disent faut que je sorte, c'est qu'ils ont vécu quelque chose de difficile dans la semaine ou autre. Mais vraiment.
Tu nous embêtes là.
Ouais. Vraiment, l'alcool, c'est. C'est à double tranchant, c'est à boire avec modération et bien entouré.
Ouais.
On parle pas d'aller boire au pied de la gare.
D'accord. Et toi, l'alcoolisme?
Et de mon côté, l'alcoolisme, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est quand on a besoin de boire pour oublier donc les problèmes, mais au-delà du fait de sortir entre amis pour boire et se mettre minable, c'est vraiment boire quand on est seul. Quand on est seul, c'est que vraiment on a des problèmes à noyer, qu'on veut oublier des choses et on noie nos problèmes dans l'alcool. Et on entend très souvent, et malheureusement c'est très triste et ça arrive de plus en plus jeune.
Ouais.
Donc moi je tiens à dire aux parents de faire très attention à leurs enfants, de toujours être très à l'écoute parce que c'est aussi un manque d'écoute de la part des parents, je pense, quand les jeunes se noient dans l'alcool. Parce que bah, voilà, des fois il y a des défaillances au niveau des relations avec les parents et ça peut vraiment favoriser ce problème-là qui est engendré chez les jeunes et c'est très dommage.
Je vous remercie beaucoup. J'adore faire des micro-trottoirs. Je me rends compte que j'adore ça. Vos prénoms?
Emma.
Emma.
Nikita.
Nikita. Mélanie.
Enchantée.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Passez une très bonne après-midi.
Au revoir, bon après-midi.
Ben voilà, écoute, on a écouté tout ce petit monde-là dans la rue. Alors moi, je vais te les poser ces questions du coup. Alors, et toi, Patrick, ça t'arrive de boire un coup?
Bah écoute, ouais, moi je bois de l'eau pétillante depuis 10 ans, pour être précis, okay. Depuis le 15 juin 2015. Mm. Voilà, donc c'est cet été, c'est clairement, ça fait 10 ans que je bois de l'eau, quoi.
Ouais.
De l'eau pétillante.
Zéro alcool. Zéro. Soyons clairs, c'est zéro. Même pas un baba au rhum, quoi.
Non.
Pour que les auditeurs puissent se rendre compte un peu aussi des choses.
Ouais. Alors, on va être très clair, c'est zéro alcool.
Zéro alcool.
Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, en fait, l'alcool maintenant me dérange, en fait.
Ouais.
Qu'il soit chez les autres, qu'il soit chez moi. Enfin, je veux dire, l'alcool me dérange. Voilà. C'est zéro alcool, absolu.
Et pour toi, l'alcoolisme, c'est quoi?
Alors là, c'est intéressant et du coup, je vais profiter de ton émission parce que j'ai un message, moi, à passer par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est mes chiffres à moi, c'est ma façon de raisonner. Je crois que la France entière, le monde entier est concerné par l'alcool. Et aujourd'hui, on parle d'une maladie. Et ça, c'est important pour les auditeurs qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a qui sont en galère comme je l'ai été. Il faut déjà bien dire à tout le monde qu'aujourd'hui, l'alcoolisme, l'alcoolodépendance, l'alcool excessif, tout ce que les gens peuvent bien dire, là, comme on a entendu dans tes micro-trottoirs qui sont ultra intéressants, moi, je mets tout ça dans le même sac. Voilà, et on parle d'une maladie. Donc, si on parle d'une maladie, ça veut dire que les gens qui sont concernés par l'alcoolodépendance doivent entendre que quand on est malade, on peut se soigner. Voilà. Et il faut que les personnes qui entourent les personnes atteintes d'alcoolodépendance, il faut absolument que leurs proches entendent aussi que c'est une maladie. Moi, j'ai pas choisi d'avoir un cancer, quoi. Mmh. J'ai pas choisi la maladie que j'ai eue. Et la maladie, c'est l'alcoolodépendance, comme le dit l'OMS, effectivement.
Voilà. Et du coup, pour...
Donc, je réponds quand même clairement à ta question. Vas-y. Je ne bois que de l'eau.
Voilà. Génial. Et pour que nos auditeurs qui ont des proches qui sont dans la maladie et qui pourraient se dire, mais il n'a pas la volonté d'arrêter, ou qui pourraient émettre ce genre de réflexion, ce genre d'idée ou ce genre de pensée, qu'est-ce que tu as à leur dire? Est-ce que... J'essaie de me mettre à la place d'un alcoolique qui, effectivement, ne peut pas s'en passer. Comment tu le décrirais?
Ouais, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, Mel, et j'aime beaucoup ta question parce qu'il faut arrêter aussi d'entendre les gens qui parlent d'alcoolodépendance. Il faut arrêter d'utiliser le mot plaisir, le mot envie, le mot volonté. Voilà. Il faut arrêter avec ça. Quand tu es alcoolodépendant, il n'y a aucun plaisir à la consommation, il n'y a pas d'envie. Et on parle de besoin, voilà. Mmh. On parle de besoin. Et d'ailleurs, moi j'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est pas une anecdote, c'est une façon de voir les choses, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller dans une piscine ou de nager. Je viens de la banlieue parisienne. Il y a des fous qui se baignent dans la Seine, mais ils n'ont pas forcément la chance d'aller en piscine ou à la mer. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette chance d'aller dans l'eau.
Ouais.
Et en fait, pour moi, l'image la plus simple, la plus représentative, c'est de vous imaginer au fond de l'eau, en train de plonger, aller chercher un objet, comme on a tous fait, la paire de lunettes, le masque, là, ou à la plage, d'être emporté par un rouleau. Et en fait, à un moment, et quand même, l'être humain a besoin de respirer, et il doit aller à la surface prendre l'air. Et en fait, on ouvre tous les yeux parce qu'on a peur, on ne sait pas trop où c'est, on voit cette surface, on a besoin d'air. Et là, on sent le manque, on sent le manque d'oxygène. Et on commence à flipper, on a cette angoisse puissante qui nous monte à la tête, là. On a le cœur qui palpite. Ouais. Et en fait, de toute façon, ça n'ira pas tant qu'on n'aura pas pris ce grand bol d'air qu'on a quand on arrive à la surface. Eh bien, l'alcoolodépendance, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, de toute façon, il n'y a pas de temporalité, mais quand tu vas être en manque d'alcool, quand ton taux d'alcool dans le sang va être en dessous de celui auquel tu vis, il y a cette crise de manque qui arrive. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler.
Et
par contre, elle est tellement puissante, cette crise de manque, que la seule chose qui va apaiser le système nerveux, la pensée, l'arrêt des tremblements, on en a entendu parler là dans les micro-trottoirs, c'est l'alcool.
Ouais.
Et aujourd'hui, je le précise, il n'y a pas de substitut à l'alcool.
Ça, c'est super important que tu l'écrives, parce qu'il y a des substituts à l'héroïne, il y a des substituts aux drogues,
tous les toxiques, tous les toxiques. Et bon, moi, je suis de la génération, je suis de 77, j'ai 47 ans, comme tu l'as précisé. Je n'ai pas consommé, j'ai consommé du THC, du tabac. D'ailleurs, je pense qu'on y viendra aussi. Mais voilà, c'est les trois produits que j'ai consommés, c'est tabac, THC et alcool. J'ai goûté à d'autres molécules, mais les trois que j'ai consommés, les trois auxquels j'ai été addict, et j'en oublie une quatrième, c'est les benzos. Donc il y a quatre produits toxiques auxquels j'ai été dépendant. C'est les benzos, le tabac, le THC et l'alcool.
Ouais.
Et en fait, cette dépendance aux toxiques, eh ben, le seul toxique qui n'a pas de substitut aujourd'hui, c'est l'alcool. Et c'est pour ça que c'est un démon. Parce qu'il n'y a pas de substitut, donc on peut pas s'en passer.
Voilà. Et il y a une métaphore que j'ai aimée et que tu m'as dit en off avant l'émission, puisqu'on a quand même échangé avant de faire cette émission, c'est l'essence dans le moteur.
Ouais, bah oui, clairement. Là, c'est un point de vue qui est différent. Alors, le point de vue, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire l'alcoolodépendant. En fait,
c'est le besoin qui revient, en fait.
Exactement.
L'essence dans le moteur, l'air pour respirer. Voilà, c'est ce terme de besoin qui revient. De toute façon, un moteur pour avancer, il a besoin d'essence. Et l'alcoolodépendant, pour avancer, commencer sa journée, il a besoin d'alcool.
Ouais, et ben, tu vois, tu mets le doigt juste encore dans ta question. Et c'est dommage, parce que dans ta question, et c'est ça que je viens de dire, et je viens de dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut aussi arrêter de temporalité, parce que ta question, elle est juste, mais tu dis le matin.
Ouais.
Et en fait, il n'y a pas de temporalité, c'est pas pour commencer la journée.
Ouais, d'accord.
Et en fait, ce moteur, cette machine, c'est la vie de tous les jours, c'est tout le temps, c'est le jour, la nuit, pour aller pisser la nuit.
Ouais, mais c'est bien, on pour est aller là pisser pour ça, la nuit,
côté alcoolo dépendant. Voilà, exactement, côté alcoolo dépendant la nuit. Mmh. Et eh ben avant d'aller pisser, ben pour pouvoir te lever, ouais. Il va falloir que tu boives un coup.
Ah, oh, d'accord.
Voilà. Et même si ça a poussé sur ta vessie, de toute façon, c'est ça. Si tu n'as pas d'essence dans le moteur, ouais. Tu n'avanceras pas. Okay. Quand tu es en panne sèche, Et eh ben l'alcoolo dépendant, quoi qu'il fasse, il a besoin d'alcool pour se réaliser. Et c'est bien dit dans l'OMS d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on parle d'un comportement et quand on est alcoolo dépendant, notre comportement est toujours focalisé sur l'alcool, que ça soit la gestion de ton stock, la façon dont tu vas le consommer ou l'état dans lequel tu es, c'est-à-dire soit en manque, soit au taux qui te permet d'avancer. Et ton essence, ben en fait, c'est pas tu mets un petit peu d'essence et t'avances, c'est tu mets de l'essence et il faut vraiment que tu aies ton taux d'alcool, ouais. Et là tu peux commencer à avancer. Voilà.
Et alors, j'ai envie de rentrer bien dans les clichés aussi, hein. On va y aller en plein dedans. Est-ce que boire tout seul, c'est vraiment dangereux et synonyme d'alcoolisme?
Ouais, alors là, c'est pareil. C'est bien parce que ça montre que tu as préparé ton sujet. Mais très clairement, l'alcoolisme, l'alcoolodépendance et cette maladie n'a rien à voir avec consommer en nombre ou consommer tout seul.
Ouais.
Consommer de l'alcool en étant alcoolo-dépendant, c'est mettre de l'essence dans son moteur. Donc, que tu sois avec du monde ou que tu sois tout seul, tu vas boire de l'alcool pour atteindre ce taux qui te permet de faire les choses élémentaires de ta vie et tout ce que tu as à faire dans ta vie, tu ne peux le faire que si tu as ton taux. Et quand tu es alcoolo-dépendant, et il y a des gens qui nous écoutent et ils sont dans cette situation-là, en général, les problématiques sont personnelles et donc tu es tout seul dans ta tronche avec ton problème et donc tu soignes tes maux à toi, M-A-U-X, avec l'alcool. Mais même quand tu es en famille, même quand tu es en couple,
ouais.
Même quand tu es avec, avec tes potes, en fait,
donc, ça n'a rien à voir.
Oui. Okay. Et dans les gens que tu as interviewés, je suis pas médecin, je les connais pas, mais il n'y a pas d'alcoolo-dépendant dans ceux que tu as interviewés et ceux que tu nous as fait écouter. Mais par contre, des alcoolo-dépendants, il y en a quand ils sont dans leur soirée. Mmh. Ils ont des copains qui rentrent dans cette problématique-là, qui rentrent dans cette pathologie. Mmh. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est là où est le fléau. C'est que justement, ils sont dans un paradoxe. C'est qu'ils boivent soi-disant pour faire la fête, pour le plaisir. Mais il y en a toujours un ou deux qui ont besoin de boire pour faire la fête. Mmh. Et ce n'est pas le même besoin que l'alcoolodépendance. Et c'est là où les nuances sont très sensibles. C'est que l'alcoolodépendant, qu'il ait la fête ou pas, de toute façon, il aura picolé.
Ouais.
Mais l'alcoolodépendant, il peut aller avec n'importe lequel. Et au contraire, il va être bien parce que comme l'alcool est roi, eh ben, il peut picoler. Et en fait, il est dans son besoin. Il répond à son besoin.
Oui, de toute façon.
De toute façon, voilà. Et en fait, c'est le piège de l'alcool parce qu'il est outil de. Ouais. Alors, est-ce qu'il est outil pour soigner la pathologie ou est-ce qu'il est outil pour être un lien social? Parce que, bon, moi, aujourd'hui, les alcooliques et je le dis parce que j'en suis un, hein, mais les alcoolodépendants ou les personnes qui picolent, à un moment, il faut les regarder boire, quoi. Hein, je parle de ceux qui font la fête, notamment. Ben, en fait, ils sont contents, ils sont bourrés, quoi. Mais ils savent plus qui ils sont.
Souvent, c'est ça.
Ouais.
On a entendu aussi dans le micro-trottoir la notion d'impact sur la vie. L'impact, pour moi, le mot impact, c'est un choc.
Ah bah écoute, moi j'ai tout perdu.
Ouais.
J'ai tout perdu. Alors je le dis avec le sourire aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que je me reconstruis. Mais j'ai tout perdu.
Ouais.
Voilà, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes potes, j'ai perdu mes amis d'enfance, ouais. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma passion. J'ai tout perdu. Il n'y a que deux, trois trucs que je n'ai pas perdu. Et c'est ça qui font que je m'en suis sorti. C'est mon éducation, ma dignité et mon courage.
Ouais.
Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux regarder les gens. Parce que j'ai tout perdu. Et en 10 ans, j'ai tout reconstruit.
Voilà. Et c'est pour ça que je t'interroge. Et du coup, on va pouvoir revenir là-dessus parce qu'on fera plusieurs émissions.
Ouais.
On reviendra du coup petit à petit sur ton parcours. On reviendra sur des grands thèmes comme comment on devient alcoolique, les crises de manque, tu vas nous raconter des anecdotes de vie. Comme ça, on va pouvoir vraiment se rendre compte de la réalité, de comment tu t'en es sorti, quel a été peut-être le déclic et peut-être aussi des clés. Voilà. Et je suis très, très impatiente de pouvoir poursuivre ces émissions avec toi. Merci, Patrick.
Bah écoute, merci. Et avant de raccrocher, parce que je sais que la parole est précieuse et je profite de ce passage-là pour inviter les auditeurs à, d'une manière ou d'une autre à contacter Escapade, à me contacter moi, à contacter mon asso Résilio, à appeler pour avoir les coordonnées, avoir des contacts. Parce que on y reviendra plus précisément, mais aujourd'hui, si tu interviews des personnes extraordinaires, c'est parce que quand tu rentres dans un hôpital avec un bras cassé, tu ressors, tu as le bras réparé.
Ouais.
Où que tu sois en France, tu rentres avec un bras cassé, tu sors, ton bras il est réparé. C'est 99,9% de réussite de soins. Aujourd'hui, quand tu es alcoolique, alcoolodépendant, que tu es le piccolo de la famille, que t'es le mauvais bougre, hein, et ben aujourd'hui les parcours de soins ils sont compliqués, c'est compliqué de s'en sortir.
Ouais.
Et c'est effectivement pour ça que je le dis, parce qu'en fait moi j'ai des clés de celui du mec qui s'en est sorti.
Ouais, et qui est passé par là.
Et quand je parle à un mec qui est alcoolodépendant, je me mets en face de lui et quand je le regarde, je me vois quand j'étais avant.
Ouais.
Et d'ailleurs, les émissions en général qui sont faites avec des anciens alcooliques, moi j'ai toujours un petit doute de savoir s'ils ont vraiment été alcoolodépendants. Parce que l'alcoolodépendance, c'est l'enfer. Voilà. C'est une prison. Moi j'ai été en prison, j'ai été derrière des barreaux, j'ai été enfermé par la justice. Ben, je crois que l'alcoolisme, c'est pire que d'être enfermé dans une prison.
Mmh.
Voilà. Et ça, je voudrais que les gens ils s'en saisissent. Je voudrais qu'avec ton émission, on puisse toucher du monde. Parce que c'est un fléau qui tue tout le monde, quoi. Voilà. C'est de la merde, en fait, l'alcool.
Merci d'être là pour pouvoir nous en parler.
Et à la prochaine avec grand plaisir.
Et oui, merci Patrick.
Et voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à Patrick d'avoir témoigné et d'avoir répondu à mes questions. Merci à Siam, à la régie. Merci, un petit coucou à Max qui m'a aidé pour vraiment monter un peu et mes micro-trottoirs, c'est sympa. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous les auditeurs d'avoir prêté vos oreilles. À bientôt.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'enfer ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. et me laisser mourir.